Qualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Après Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Alpha Condé en Guinée et Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, c'est au tour d'Idriss Déby Itno de réaliser un coup KO au Tchad, une victoire dès le premier tour. Le président sortant est arrivé largement en tête avec plus de 61% des voix, loin devant le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, qui a recueilli un peu moins de 13% des suffrages. Cette victoire est la victoire du peuple tchadien, a déclaré Idriss Déby Itno peu après la publication de ses résultats qui doivent d'ailleurs encore être confirmés par le Conseil constitutionnel. En tout cas, l'opposition a fait savoir qu'elle ne reconnaîtra pas les institutions qui seront issues de ce scrutin qu'elle qualifie de mascarade électorale. Elle affirme que des centaines d'urnes et des milliers de procès-verbaux ont disparu. Elle accuse également le MPS, le parti au pouvoir, d'avoir mis en place un trafic de cartes d'électeurs. Du coup, Saleh Kebzabo assure que les opposants se réservent le droit de recourir à un gouvernement de salut public sans donner davantage d'explications. Alors, se dirige-t-on vers une crise post-électorale au Tchad? Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. Vous continuez évidemment à nous rejoindre ici à Paris au téléphone 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vos réactions également sur les réseaux sociaux. Alban sur Facebook nous dit: si après 26 ans de règne sans partage, Idriss Déby n'a pas pu donner aux Tchadiens l'essentiel pour vivre correctement, je ne vois pas le faire durant les 5 prochaines années. Pour moi, sa réélection ne compte pas. La vie du citoyen lambda ne changera pas. Voilà mon point de vue, nous dit cet auditeur sur Facebook. Bonjour David.
Bonjour Juan.
Et vous êtes très déçu du résultat.
Effectivement, pour nous qui avons milité pour avoir un changement, une alternance au Tchad, on est vraiment déçu du fait que le président Idriss Déby passe encore avec 60%, c'est-à-dire au premier tour. Et ce qui est vraiment grave, c'est que toutes les missions d'observation qui sont venues au Tchad ici ont produit des rapports qui tendent toujours à minimiser la gravité des irrégularités qui sont même de nature à entacher la crédibilité du scrutin. Et vous-même, vous avez révélé, on ne va pas faire la liste de toutes les irrégularités, mais des urnes qui ont disparu.
Attendez, excusez-moi, que les choses soient claires, David, ce n'est pas moi qui révèle que des urnes ont disparu. Je n'ai fait que préciser ce que dénonce l'opposition, et notamment Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition. Moi, je n'ai pas les preuves que des urnes ont disparu, ni que des milliers de procès-verbaux ont également disparu dans la nature. Je n'ai pas de preuves non plus s'agissant de ce trafic de carte d'électeur dénoncée par l'opposition. Mais pour vous, incontestablement, David, il y a eu des irrégularités, il y a eu fraude.
Il y a eu fraude, Juan. Ça dit que, même si on n'a pas les moyens de pouvoir prouver la fraude, moi, je veux simplement dire, quand quelqu'un reste au pouvoir plus de 2 mandats, est-ce qu'on a besoin de faire un sondage pour savoir que de l'autre côté, il y a des mécontents? On n'a pas besoin de faire un sondage pour ça. Et puis, dans un pays dit démocratique, il faut l'alternance pour pouvoir garantir l'impunité, la justice sociale et tout ça. Après 26 ans de pouvoir, l'électricité, c'est encore un problème. Alors, où est-ce qu'on va, Juan?
David, merci d'avoir lancé le débat. Je précise tout de même, et c'est important, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est que les candidats disposent de 15 jours pour déposer d'éventuels recours auprès du Conseil constitutionnel. Ce qui est intéressant, c'est que Saleh Kebzabo, donc le chef de file de l'opposition, a dit sur notre antenne qu'il n'envisageait aucun recours dans la mesure où, je cite, ni lui, ni son parti n'a pu avoir suffisamment de moyens pour disposer de preuves, puisque nous n'avons pas les moyens de démontrer ce que nous disons. Nous ne voulons pas être ridiculisés devant le Conseil constitutionnel. Il estime que lui et son parti ont été privés de tout moyen de preuve. Là aussi, ça ne manquera pas de faire réagir au standard. Bonjour Brahim.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Comment réagissez-vous à la réélection du président Idriss Déby Itno?
Tout d'abord, Juan, j'aimerais préciser que l'opposition ne devrait s'en prendre qu'à elle-même. Qu'il y ait un ordre électoral ou bien un premier tour KO régulier, je pense que dans la mesure où l'opposition nous a rassurés que ces élections ne seront plus comme les élections passées. Et donc, cette opposition nous a rassurés qu'il n'y aurait pas assez de fraude, qu'ils seraient là pour vérifier et qu'ils avaient accepté de participer aux élections sans un kit de vérification. Donc, quand cette opposition nous rassure de tout ceci, et aujourd'hui, cette même opposition vient pleurnicher pour dire qu'il y a eu des mascarades électorales, qu'il y a eu des bourrages, je pense qu'il y a, une contre-vérité quelque part. Et je ne sais pas, moi j'étais déçu, déçu de l'opposition. Et je pense que ce n'est pas dans ces conditions que cette opposition aura une crédibilité dans les élections futures.
Oui, mais David, à l'instant, N'Djamena nous disait comment après 26 ans au pouvoir, on peut remporter une élection dès le premier tour. Forcément, il y a des gens qui sont déçus par le président en place. L'électricité fait défaut, l'eau potable fait défaut. Il a cité quelques exemples, David, à l'instant. On ne pouvait pas s'attendre tout de même à un second tour ?
C'est possible, puisque nous, on n'a pas toutes les données nécessaires pour pouvoir juguler tout ceci. Mais je pense que l'opposition elle-même, sa stratégie a échoué. La stratégie consistait à présenter plusieurs candidats. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Elle pouvait peut-être présenter tout au plus deux candidats au nord, deux autres au sud. Et je pense que dans ces conditions, ils peuvent plus ou moins remporter pas mal de sièges. Mais dans cette configuration, je pense que le candidat d'élite pourrait bel et bien avoir ce pourcentage.
Bon, donc pour vous, il y a eu clairement erreur de stratégie de la part de l'opposition qui s'est présentée effectivement en ordre dispersé, ce qui a peut-être favorisé l'émiettement des voix et facilité donc la réélection dès le premier tour du président Idriss Déby Itno. Bonjour Prosper.
Bonjour Juan.
Vous êtes également...
Et bonjour à tous les auditeurs d'ailleurs.
Vous nous appelez de N'Djamena également, on vous écoute.
Effectivement, j'appelle de N'Djamena. Je voudrais dire tout simplement que le résultat proclamé par la Commission électorale nationale indépendante n'est pas normal. Parce que nous attendons mieux que la CENI puisse donner un résultat qui est digne de nom de l'indépendance. La CENI n'a pas de l'indépendance. La CENI dépend du MPS.
Du parti au pouvoir.
Tous les résultats...
Mais Prosper, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que les résultats communiqués jeudi soir par la CENI ne sont pas les vrais résultats ?
Ce ne sont pas les vrais résultats, puisque si on doit revenir un peu au... Pas sondage en tant que tel, mais déjà...
Oui, parce qu'il n'y a pas eu de sondage réalisé ni pendant la campagne électorale, ni à la sortie des urnes. Donc c'est compliqué d'être aussi affirmatif, Prosper.
On n'a pas une question au Tchad qui doit faire les sondages, mais on sait très bien déjà que des informations réalisées par les journaux et également les informations que nous détenons de bouche à l'oreille confirment déjà nettement que Idriss Déby ne peut pas gagner ces élections. On a également assisté au dépouillement de ces urnes-là le 10 avril et il faut notamment dire que Déby, s'il arrive à gagner ces élections au premier tour, ce n'est que des élections truquées. Donc on n'accepterait jamais et nous on attend à ce que l'opposition puisse décider quelque chose de réel et tous les citoyens vont être derrière cette opposition. Puisque maintenant, tous ceux qui soutiennent Déby sont ceux qui sont autour de lui, autour du mouvement Fatoumata Sali, autour de la communauté Zakawa. Donc, on ne peut jamais accepter qu'on puisse encore revenir nous pied de tout ce qui est là. Parce que
mais quand l'opposition dit on ne va pas saisir le Conseil constitutionnel, que va-t-il se passer alors ?
Le Conseil constitutionnel est déjà, vous savez très bien que, comment dirais-je, le président même du Conseil constitutionnel est un impétien, permettez-moi les termes. Donc le Conseil constitutionnel va juste accepter les résultats proclamés par la CENI. Et qu'attendons-nous, nous les citoyens du Tchad ? Nous, on attend tout simplement que si le Conseil constitutionnel accepte avec toute son indépendance, que ces résultats vraiment n'est pas crédible, ils devraient dire non ou accepter un deuxième tour. Mais si le deuxième tour n'est pas accepté, nous on attend à ce que comme l'opposition, le Kenzabo a dit, il n'a qu'à déjà...
Oui, est-ce que, attendez, on va essayer d'être clair. Ce que veut l'opposition, si jamais, effectivement, le Conseil constitutionnel valide les résultats annoncés la semaine dernière par la CENI, eh bien, Salé Kenzabo se réserve le droit de recourir, je le cite, à un gouvernement de salut public. Des réactions sur Facebook. Prive nous dit, mais à quoi devait-on s'attendre si ce n'est pas à cette mascarade? L'issue de cette prétendue élection était connue d'avance. Déby n'aurait pas déposé sa candidature s'il n'avait plus envie de se maintenir au pouvoir. Paul-Antoine nous dit, dans un premier temps, on peut déplorer le manque d'alternance au Tchad, mais ce cinquième mandat sera l'expression d'une stabilité politique, car le pays est confronté à la menace terroriste. Hors du changement de régime, hors un changement de régime pourrait fragiliser le pays. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour Monsieur Gomez.
Vous êtes à N'Djamena, et comme le précédent auditeur, comme Prosper, vous êtes en colère. Vous dénoncez une mascarade électorale.
Oui, en fait, moi j'ai eu la chance de participer le 16 avril au dépouillement des différents PV qui nous ont été transmis à partir des régions. Et je constate qu'il y a deux types de PV. Il y a un PV dont le numéro de série est de 7 chiffres et un autre PV dont le numéro de série est de 6 chiffres. Donc c'est à partir de là que nous avons compris qu'il y a des PV parallèles qui ont été fabriqués dans la même imprimerie pour permettre, n'est-ce pas, cette mascarade électorale à laquelle on nous a fait, n'est-ce pas, faire passer des résultats.
Mais comment expliquez-vous, excusez-moi Mamadou, comment expliquez-vous qu'à aucun moment les observateurs qui étaient présents, observateurs étrangers, n'aient pointé du doigt toutes ces irrégularités?
En fait, les observateurs, ils sont toujours la même litanie dans tous les pays où ils sont passés. C'est la même chose. Ils n'ont jamais déploré, jamais dénoncé toutes les irrégularités qui s'en sont suivies à l'issue des élections. Et c'est pour cela que moi, j'ai envie de dire tout simplement que le comportement des hommes de l'opposition est vraiment responsable. À la rue, ils n'ont pas demandé à la population de descendre dans la rue, c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport au propos du président Kenzabo qui consistait à ne pas aller devant le Conseil constitutionnel, là également c'est vrai parce que dans certaines régions, on n'a pas mis en suffisance le PV pour que chaque représentants des partis politiques puissent en avoir la preuve, n'est-ce pas, de cette élection-là.
Oui. Mais en même temps, imaginez bien que c'est compliqué pour le citoyen lambda de s'y retrouver. L'opposition dénonce des fraudes et en même temps, elle dit « mais je n'ai pas les moyens de prouver qu'il y a eu fraude ».
Oui, en effet, ils n'ont pas les moyens de prouver parce qu'ils n'avaient pas mis en suffisance, n'est-ce pas, les PV. Et c'est pour cela que je dis, quand il dit qu'il ferait recours à un gouvernement de salut national, ça c'est une guérilla politique urbaine qu'il voulait enclencher. Et là également, je dis, et c'est une bonne chose, mais qu'à cela ne tienne, le fait de ne pas faire recours à la rue, c'est une très bonne chose, puisque Kenzabo a une expérience de la vie politique de ce pays, puisque oui. Les gens, le soir même de leur victoire, sans vouloir, ils ont tiré des armes de sorte à même à blesser des populations.
Enfin, ils ont tiré en l'air, effectivement, quand vous dites ils ont tiré des armes, ils ont pris des armes, ils ont tiré en l'air pour affecter la réélection du président Idriss Déby. Merci de cette réaction, Mamadou. Abderrahman, vous êtes à Paris, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, donc moi je voulais juste dire tout d'abord félicitations monsieur le président Idriss Déby, il a mérité largement cette victoire. Voilà. Mmh. Et pourquoi il a mérité? Parce que il a un programme politique bien tracé qu'il a commencé et il n'a pas encore fini.
Quel est son programme? Alors justement, il n'a pas encore fini. Lorsque des auditeurs disent sur Facebook, par exemple, et même à l'antenne tout à l'heure, ça fait 26 ans qu'il est au pouvoir, il n'y a toujours pas l'électricité ni l'eau courante. Que va-t-il faire de plus alors?
La population, parfois, ils ne disent pas la vérité, monsieur Juan Gomez. Donc, il faut être sur le terrain pour voir la vérité.
D'accord? Et quelle est donc la vérité alors?
La vérité, ils l'ont vu, c'est tout ce qu'il a fait par rapport aux infrastructures. Et les coupures d'électricité, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Donc, il faut dire la vérité, la population. Donc les gens, ils parlent que des côtés négatifs. Moi, je suis pas d'accord.
Ouais, en même temps, le Tchad figure parmi les pays les plus pauvres de la planète. Ça, c'est une réalité indéniable, démontrée par toutes les statistiques et les chiffres des Nations Unies, notamment du PNUD.
Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Donc c'est démontré, je suis d'accord. On ne se convient pas. Mais on doit encore se battre. Donc nous, on a connu la guerre. On a grandi dans la guerre. Donc voilà, on doit encore se battre pour y arriver. Donc voilà.
Donc, ce que vous essayez de nous dire quand vous parlez « on doit se battre pour y arriver, on a connu la guerre », c'est qu'aujourd'hui, il est le seul capable de prendre les mesures nécessaires pour garantir la stabilité du pays, la stabilité de la région.
Pour le moment, pour diriger un pays, notre pays, le Tchad, il faut un président comme Idriss Déby. Je vous dis pourquoi, parce que
oui.
Parce qu'il faut, il faut quelqu'un de dur pour bouger le pays. Nous avons des opposants qui n'ont pas des, des programmes politiques bien tracés. Il faut être uni d'abord pour battre un candidat. Mmh. Donc eux, ils ne sont pas unis. Les programmes, ça n'a pas plu à la population. C'est vrai. Tous les gens qui ont voté pour l'opposant, c'est des gens qui sont contre juste Idriss Déby. D'accord ? Nous, on voit juste la réalité du pays. Voilà.
D'accord. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir appelé, Abderrahmane de Paris. Il y a Djibrine sur Facebook qui se demande pourquoi, à quelques heures de la publication des résultats, le vice-président de la commission électorale a annoncé sa démission. Tal Koubou, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous nous appelez de N'Djamena, on vous écoute.
Oui, j'appelle N'Djamena, bien sûr. Je ne suis pas vraiment satisfait du résultat qui a été... donné par la CENI. D'abord, la première raison, c'est que même au sein de la CENI, il y a déjà une division. Ça veut dire qu'il y a Anguille Souroche.
Anguille Souroche.
Le vice-président de la CENI a démissionné. Bien sûr, vous savez que le vice-président de la CENI a démissionné. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ensuite, la façon dont les élections se sont passées, ce n'est pas de la façon démocratique. Tout le monde sait ce qui s'est passé en réalité. Prenons par exemple le vote des militaires. Jusqu'à là, on en parle encore. Donc, ces élections sont passées donc, sous la surveillance stricte de leur hiérarchie. Et,
vous faites référence au fait que les militaires, effectivement, ont voté, mais comme c'est le cas dans de nombreux pays africains, ont voté la veille du 10, donc la veille que le citoyen lambda vote. Et selon l'opposition, une soixantaine de militaires ont disparu depuis pour ne pas avoir voté en faveur du président sortant Idriss Déby Itno. Le gouvernement, lui, de son côté, a quand même dénoncé des allégations fallacieuses. Et pour l'instant... il n'y a aucune preuve que ces 60 militaires ont disparu.
Alors, s'ils sont là, où sont-ils alors? Et la preuve, c'est que nous pouvons simplement consulter les familles de ces disparus.
Ouais.
Et donc, ces familles, je crois qu'ils ne peuvent pas dire autre chose s'ils constatent que la personne a disparu, n'a pas réappu depuis lors, ça dit quoi?
Ouais.
Ça dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, la personne va simplement s'évaporiser.
Le ministre de la Communication s'est expliqué hein, sur RFI, vous l'avez peut-être entendu, il a dit que tous ces militaires étaient en vie, ils sont actuellement en mission commandée dans leur poste d'affectation et il a annoncé que toute la lumière serait faite dans les prochains jours s'agissant donc ces allégations de l'opposition. Merci Tal Koubou, merci à vous tous, hein, on aura l'occasion, c'est promis, de revenir sur cette élection présidentielle une fois les résultats confirmés par le Conseil constitutionnel. Ce sera donc maintenant dans un peu moins de 2 semaines. Avant de vous quitter, je vous rappelle que nous serons dans quelques jours à Bangui en Centrafrique pour 2 émissions en public. Une première le samedi prochain, donc le 30 avril à 14h. Nous enregistrerons un débat consacré à la réconciliation nationale après les 3 années de violences intercommunautaires qui ont déchiré le pays. Et puis dans une semaine, le lundi 2 mai, à 14h également, nous enregistrerons une émission sur les défis qui attendent le nouveau président élu. Et pour l'occasion d'ailleurs, Faustin Archange Touadéra, qui a été investi il y a maintenant 3 semaines, a accepté notre invitation de dialoguer avec les auditeurs de Bangui. Ce sera un véritable dialogue citoyen, pas seulement avec 3 ou 4 citoyens, mais il y aura des dizaines et des dizaines de citoyens qui pourront dialoguer et parler avec le président de la République sur tous les grands chantiers qui attendent le pays. Donc notez bien sur vos agendas, appel sur l'actualité à Bangui le 30 avril et le 2 mai. Nous serons installés à l'Alliance française et d'ailleurs si vous souhaitez participer à ces émissions, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Demain, en deuxième partie, nous parlerons du Burkina Faso et de la lutte contre la corruption. C'est l'une des priorités du nouveau président. D'autant qu'un audit pointe du doigt la mauvaise gestion du précédent gouvernement, du gouvernement de transition. L'ex-premier ministre est clairement pointé du doigt. On lui reproche notamment de s'être attribué des parcelles dans les quartiers riches de la capitale en violation flagrante des textes. Nous en parlerons demain. Dans 10 minutes maintenant, comme tous les jours à cette heure-ci,